Bonjour à tous. C'est un nouveau rythme que 9 métropoles de l'Hexagone expérimentent depuis vendredi. Une journée dédiée au travail et une soirée où les loisirs sont réduits à leur minimum. Notre vie sociale est confinée chaque jour à partir de 21h et cela au moins pour 4 semaines afin d'interrompre la progression exponentielle du virus. La hiérarchie des activités s'en trouve bouleversée. La restauration et la culture sont reléguées au second plan, tandis que le reste de la vie économique se poursuit tant bien que mal. Alors comment déterminer quels métiers sont indispensables à l'économie et à la société? La question soulevée pendant le confinement se repose aujourd'hui avec une nouvelle acuité. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Parler de la tension entre travail et loisirs, nous accueillons aujourd'hui Benjamin Coriat, économiste, professeur des universités à l'université Sorbonne Paris-Nord et membre des économistes atterrés. Également avec nous à distance, Pierre-Michel Minguer, sociologue, professeur au Collège de France, et Valérie Charolle, économiste et philosophe, chercheuse à l'Institut Mines-Télécom Business School. À 14h45, un nouveau livre pour la bibliothèque de l'Écho, L'économie post-Covid, dernier ouvrage de Patrick Artus et Olivier Pastré. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, je vous propose d'écouter un extrait d'Alexandre le Bienheureux, un film de 1968 dans lequel Alexandre, un agriculteur joué par Philippe Noiret, décide un jour d'arrêter de travailler.
Faut prendre le temps de prendre son temps. Comprends-tu? Regarde-les. Mais regarde-les, donc. D'un bout du champ à l'autre, ils courent. Après quoi, je te le demande, hein? Crevés comme moi, ils sont le soir. Ils s'endorment fatigués et ils se réveillent plus fatigués encore. Et ça continue. Et ça n'en finit pas de durer d'être pareil. Oh, il y a un moment... C'est pas moi, mais je sais bien que c'est pas ça, quoi. Dis donc, son chien. Pareil qu'on condamne des gars aux travaux forcés. Travaux forcés, je connais. Pourtant, j'ai rien fait, moi. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Et tu me rappelles quelqu'un. Dis donc, t'as déjà regardé une fleur de carotte? Hein? Tiens. Regarde ça. Bah, tu vois, c'est ça la vie.
C'est ça la vie, voilà. Un réjouissant éloge de la paresse qui tranche Benjamin Coriat avec le discours ambiant sur l'impérieuse nécessité de travailler pour relancer une économie en crise.
Ben oui, ça fait un peu rêver. Ça fait pas seulement sourire, ça fait un peu rêver parce que c'est vrai que une société dans laquelle on aurait le temps de vivre, hein, je veux dire simplement le temps de vivre, est évidemment un objectif qu'il faut pas abandonner, Mais en même temps, ce que la crise nous met sous les yeux, c'est quand même une situation absolument terrible, quoi, où non seulement on a 1 million de personnes supplémentaires qui sont tombées dans la pauvreté, très officiellement, c'est-à-dire à partir des chiffres sur la pauvreté. Mais en plus, on a toutes sortes de professions totalement sinistrées. Et puis, comme toujours, la crise, c'est un facteur d'aggravation des inégalités. C'est les plus petits qui payent le plus. Alors, comment dire? Oui, ça fait rêver. Oui, ce sont des utopies qu'il faut qu'on garde en nous. Et peut-être, effectivement, que c'est le moment ou jamais d'en reparler. Hein. Pendant la période de mars, du Covid de mars, puisque maintenant on va parler du Covid de mars et puis du Covid de la rentrée, pendant la période du Covid de mars, on a beaucoup parlé du jour d'après. Hein. Il y a eu une série de tribunes, d'interviews, etc. sur le jour d'après. Bon, on s'aperçoit que le jour d'après, c'est de nouveau le Covid. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est l'occasion de réfléchir. Et de ce point de vue, je me réjouis de participer à cette émission.
C'est l'occasion de réfléchir et c'est ce qu'on va faire tout au long de cette émission. En effet, Pierre-Michel Minguère, effectivement, Benjamin Coriade l'a dit, il y a des difficultés que traverse actuellement l'économie. On a le sentiment qu'aujourd'hui, on a d'autant plus besoin de travailler. C'est en tout cas le discours qui est largement diffusé par le gouvernement. Et puis, avec le couvre-feu, on a aussi le sentiment qu'on fait primer le travail sur le loisir.
Oui, d'abord, pour avoir du loisir, il vaut mieux avoir du travail, ce qui permet d'assurer la viabilité du loisir et une qualité de loisir qui est supérieure à un loisir de chômeur, évidemment. Dans le film Alexandre est bien heureux, je pense qu'il remonte aux années glorieuses des 30 glorieuses. C'est là où en quelque sorte, on voyait progresser la quantité de loisirs et en même temps, on n'avait pas de problème dramatique de chômage ou de sous-emploi, ce qui était une période heureuse. On pouvait faire l'éloge du loisir à moindre frais, d'une certaine manière. Aujourd'hui, avec la situation de confinement, c'est sûr que c'est une mesure sanitaire qui oblige les gens à avoir du loisir à domicile et les professions qui sont les métiers typiques de production des loisirs en souffrent énormément. On peut espérer que on ne va pas extrapoler à l'infini et que c'est une situation provisoire, c'est une séquence, c'est une deuxième séquence qui était d'ailleurs prévisible. Mes collègues du collège virologue m'en ont beaucoup parlé et maintenant il faut la traverser aussi. On va inventer évidemment, on ne va pas, je pense qu'on ne va pas rester les bras totalement croisés en attendant que ça se passe. On va inventer et on va certainement inventer de nouvelles formes de loisirs, mais on va aussi espérer que cette période-là s'achève.
Valérie Charolle, sur le message aujourd'hui envoyé par le gouvernement et assumé par Emmanuel Macron, selon laquelle il y a une nécessité aujourd'hui de travailler pour relancer l'économie et qui tranche peut-être avec cette période heureuse décrite par le film d'Alexandre le Bienheureux.
Il y a une différence entre la période qu'on a aujourd'hui avec le couvre-feu et celle qui était le confinement. C'est que pendant le confinement, on était uniquement des êtres biologiques. On nous avait demandé de rester chez nous et l'homme travaillant, l'homo economicus, l'homme social, l'homo sociabilis, l'homme sensible, était passé derrière la scène. Là, ce qui se passe avec le couvre-feu et dans les grandes métropoles, c'est qu'on nous dit, vous êtes des homo biologicus, il faut vous protéger, mais vous êtes aussi des homo economicus, et c'est les autres parties de vous-même qui doivent passer derrière la scène et qui ne doivent plus être mises en avant. Alors, ça ne peut être que provisoire, parce que, évidemment, l'homme, c'est un tout. Et je ne crois pas qu'on puisse dire il y a d'un côté le travail et de l'autre le loisir. En plus, il y a beaucoup de choses qui ne sont ni vraiment considérées comme du travail, ni vraiment considérées comme du loisir, qui sont par exemple les activités domestiques, qui sont aussi des formes de sociabilité. Est-ce qu'on les met dans le loisir ou est-ce qu'on les met dans autre chose qui est la vie de l'homme, le monde de la vie en général? Donc là, je pense qu'on est effectivement à un moment où on nous dit vous êtes homo economicus et homo biologicus et le reste, vous le mettez de côté quelque temps. Ce quelque temps doit être le plus court possible et puis surtout nous amener à réfléchir à comment fait-on pour que on puisse ne pas en arriver là.
Alors il y a effectivement dans de nouveaux cas. Il y a effectivement ces sacrifices demandés à toute une partie de la population avec le couvre-feu et puis aussi des sacrifices demandés à certains secteurs de l'économie, Benjamin Coriade, puisque en décrétant le couvre-feu, le gouvernement établit en quelque sorte une hiérarchie entre des secteurs jugés essentiels et d'autres qui ne sont pas considérés comme tels.
Oui, mais ça, on va y venir, bien sûr, parce que c'est un sujet important. Mais ça, c'est un effet secondaire, si je peux dire, parce que ce qui est important dans le couvre-feu, un mot horrible hein, quand même, hein. Disons-le au passage, on aurait pu trouver autre chose. Hein,
parce qui a été préféré à confinement nocturne.
Oui, moi je trouve que confinement nocturne aurait été mieux, parce que couvre-feu ça renvoie quand même aux périodes de guerre, à la guerre d'Algérie, au coup d'État, enfin bon, c'est très violent. Bon, passons. La différence c'est quoi quand même, je veux dire, dans cette histoire de couvre-feu, c'est que on fait une séparation nette entre tout ce qui a à voir avec le travail. Et là, on peut tout faire, Hein, ça veut dire on peut prendre des transports bondés, on peut aller à l'école où il y a des clusters en permanence. Moi, j'ai des enfants et des petits-enfants. Tous les jours, ils reviennent avec leurs amis malades. Bon, et on va au travail. D'un côté, donc tout ça c'est autorisé, tout ça c'est très bien, tout ça il n'y a pas de problème. Et puis de l'autre côté, la vie sociale proprement dite, qui se fait pour l'essentiel dans la soirée, bon, ou à midi quand on peut, ça c'est coupé. Ça, c'est très frappant quand même ce côté. Et moi, par exemple, je suis très choqué par toute cette campagne qui est faite contre les jeunes, et sur le thème « Ah oui, c'est dans la vie sociale, etc. » qu'on fabrique les foyers.
Alors qu'en réalité, il n'y a pas d'études qui prouvent qu'il y a plus de contamination par la vie sociale que dans le métro, par exemple.
L'école et l'entreprise, ça c'est bon. Par contre, bon voilà, ça c'est un aspect. Alors l'autre aspect, c'est qu'effectivement, c'est un effet secondaire, c'est-à-dire que comme on autorise tout, ce qui est nécessaire pour le travail. Ça peut se discuter par ailleurs, hein, mais je veux dire, c'est de ça qu'il faut parler, hein. Donc, comme on autorise tout pour le travail, on essaye de couper au maximum tout le reste. Et là, donc, ça a des effets discriminants sur certaines professions par rapport à d'autres. Puisqu'il y a tous ceux qui travaillent dans la journée, ben, donc, ils travaillent, hein, je veux dire. Et puis, alors après, ben oui, effectivement, on tombe sur la culture. Ça, c'est vraiment qui est sinistré, absolument sinistré. Et puis, bien sûr, sur la restauration, pour l'essentiel. Mais sur la culture, je pense qu'on aurait dû faire quelque chose. Parce que on se nourrit pas que de pommes frites, quoi.
Bah justement, au printemps dernier, on s'était rendu compte, Pierre-Michel Menguer, qu'il était très difficile de déterminer quelles activités essentielles et lesquelles ne l'étaient pas, au-delà bien sûr de certains secteurs vitaux comme la santé ou l'alimentation. C'est une question qui se repose aujourd'hui avec le couvre-feu.
Oui, d'abord, il faut quand même souligner que c'est simplement un tiers du pays qui est en couvre-feu et donc deux tiers qui vivent plus normalement. On verra bien à l'expérience ce que ça va donner. La société du loisir, elle est confinée dans un tiers et pas dans les deux autres tiers. Deuxièmement, on peut certainement rapatrier dans un recalibrage des temps sociaux une partie de l'activité de loisir. Je sais bien que c'est plus contraint, etc. Mais les rythmes ne sont pas immuables. On peut expérimenter pendant un temps donné des différences de rythme. Le temps du domestique, le temps du travail, le temps du loisir sont des rythmes très précis, calibrés, étudiés par l'INSEE, et on verra. Je pense que les chercheurs sont très à l'ouvrage pour étudier toutes ces transformations provisoires, j'imagine. Alors, concernant votre question, évidemment, en situation de crise, d'habitude, vous savez, on évalue les professions, on a des outils pour ça. Je me souviens d'un très bel article d'Éric Morin, Constance Torelli et Christine Chambaz sur l'évaluation sociale des professions. Et on demandait aux gens de noter la désirabilité des professions et leur intérêt. Il y avait des grandes différences, d'ailleurs, en fonction de l'âge et en fonction du diplôme aussi. En temps de crise, évidemment, les choses sont assez différentes parce que se mêle d'un côté une évaluation sociale. Il est clair qu'il y a des professions qui se sont manifestées comme indispensables et c'était heureux. Il y avait une solidarité flamboyante à leur égard, visible et même audible dans les rues et dans les balcons, au balcon. Et puis, il y a l'évaluation économique. Évidemment, ça c'est d'ajuster les deux qui n'est pas si simple parce que l'évaluation économique elle repose sur des mécanismes profonds, longs. L'évaluation sociale aussi, mais elle peut être temporairement ajustée. Et le problème est de relier les deux, en quelque sorte de dire quel est le juste prix d'une profession dans une situation critique. Et est-ce que c'est un changement qui est un changement permanent ou bien c'est un changement temporaire, sachant que l'architecture des professions, elle est profondément systémique. C'est-à-dire que quand vous bougez quelque chose, vous bougez beaucoup de choses. Une profession par rapport à d'autres, ça n'est pas une profession en elle-même, mais c'est une profession située dans une architecture générale. Voilà.
Cela pose effectivement la question de ce qui fait la valeur d'un travail en temps de crise et en général. Valérie Charolle, et justement, est-ce que c'est son utilité pour la société ou sa capacité à dégager du profit? Pour Dominique Méda, par exemple, pour la sociologue, certains métiers se sont révélés inutiles pour la société alors même qu'ils ramènent des profits. Valérie Charolle.
Oui, alors là, on est à une période dans les moments de crise, c'est là où on voit se révéler ce qui sont les fondamentaux des besoins essentiels. Et on a vu un grand retournement se passer, qui est, on se rend compte que, évidemment, les métiers liés à la santé sont essentiels, mais ils sont pas assez valorisés du point de vue de ce que l'on leur donne comme revenu. On se rend compte aussi que toute la filière alimentaire est complètement déterminante pour notre vie au quotidien, pour chacun d'entre nous. Et là, ça ramène à la question de la grande distribution, des métiers qui sont des métiers très peu valorisés en termes financiers aujourd'hui sur l'échelle des salaires. Et puis, il y a d'autres métiers qu'on voit moins, mais qui apparaissent complètement déterminants dans ces périodes-là. C'est ce qui s'appelle les missions d'intérêt économique général, c'est-à-dire les réseaux d'eau, les réseaux de télécommunications, les réseaux électriques, et avec des gens qui les font fonctionner. Et donc, on a ce grand retournement où ces métiers-là, dont le personnel de base est mal payé, faut le dire, sont ceux qui sont absolument essentiels. On se rend compte, ce que l'on avait déjà vécu au moment de la crise de 2008, que les métiers du type de ceux qui interviennent sur les marchés financiers n'ont pas une si grande utilité que cela, bien qu'ils soient, eux, très bien payés. Et c'est des occasions qu'il ne faut pas laisser passer de revoir la hiérarchie, effectivement, des salaires. En 2008, on nous avait promis beaucoup de choses sur l'assagissement, notamment des marchés financiers, des rémunérations, des grands dirigeants. Et puis, c'est un problème de la politique du temps présent. Je dirais que on promet beaucoup de choses en temps de crise et on a du mal à les voir advenir.
Alors, il va falloir voir justement. Un deuxième Allez-y. Point,
qui est que sur cette question de la valorisation du travail, il y a un point aussi qui peut paraître plus technique, mais qui me semble être fondamental, c'est qu'aujourd'hui, dans l'économie telle qu'elle est conçue, et en particulier dans la comptabilité, dans la manière dont la richesse est décomptée au sein de la sphère économique et des entreprises, le travail, c'est une charge, c'est jamais une valeur. Moi, j'ai essayé de développer un projet pour justement changer ça, faire du travail une valeur dans les comptes des entreprises pour qu'on puisse justement mieux reconnaître cette valeur du travail.
Faire du travail une valeur et mieux partager cette valeur. Peut-être, je vais faire tourner un petit peu la parole Valérie Charol et me tourner vers Benjamin Coria, puisque le 13 avril dernier, Emmanuel Macron avait rendu hommage justement à ces travailleurs de la deuxième ligne. Et beaucoup de caissiers, chauffeurs, éboueurs ont alors touché des primes grâce notamment à l'exonération de cotisations sociales décidées par l'État. Or, ces primes n'ont pas été versées à tous les travailleurs de cette fameuse deuxième ligne, un certain nombre de personnels qui ont été oubliés.
Ben oui, ça c'est quand même l'intérêt, si je peux dire, de la crise, c'est d'avoir fait apparaître les premiers de corvée, hein, par rapport aux premiers de cordée. Bien, et donc toute une série de professions invisibles et maltraitées, on s'est aperçu à quel point on en avait besoin. Alors, tout d'un coup, on les a découverts, hein, bon. Des promesses ont été faites et puis elles n'ont pas du tout été suivies des faits. Alors il y a toutes les professions que vous citez, mais d'abord et surtout il y a les professions de santé. Enfin d'abord et surtout non, mais il y a aussi et notamment les professions de santé. Moi je suis amené à travailler pas mal avec les gens de ce milieu. Après le Ségur, quand on leur a dit écoutez ça va peut-être être 180 euros pour certains, souvent décidé par le directeur de l'hôpital, sans critères absolument clairs. Mais ils étaient effondrés, parce que non seulement c'était dérisoire, je veux dire, on n'avait qu'à leur offrir un paquet de cigarettes tant qu'on y était, mais en plus, leur demande, c'était pas seulement celle-là, c'était d'améliorer les conditions de travail, c'était d'en refaire des gens qui soignent vraiment, c'est de rétablir les collectifs de santé dans leur mission de santé publique, toute chose qui avait totalement disparu, et le résultat des courses, c'est que l'hôpital s'effondre, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vague de démissions absolument effrayante.
Alors, il y a effectivement deux problèmes différents. Des primes, Pierre-Michel Minguère, qui sont peut-être insuffisantes, enfin plutôt des revalorisations, pour être précis. Alors, je précise qu'il s'agit d'une revalorisation nette de 183 euros par mois, qui est censée être effective pour l'ensemble des personnels des hôpitaux et des EHPAD hors médecins. 90 euros au 1er septembre, 93 ici à la fin de l'année. Ça a été avancé, ça devait être en avril, ce sera finalement à la fin d'année. Donc on a quand même des revalorisations qui existent, Pierre-Michel Minguère, et en même temps effectivement une demande de plus de moyens à l'hôpital et de plus de personnel, ce qui est encore un autre sujet.
Oui, il y a plusieurs aspects. D'abord, on peut faire un raisonnement en termes de secteur. C'est ce qu'on faisait presque implicitement là, en disant la santé, la logistique, le commerce, etc. C'est des raisonnements en termes de secteur. Et dans ces secteurs, il y a toutes sortes de professions qui ont des conditions de travail plus ou moins favorables. Mais bon, on peut en débattre, évidemment. Et il est clair que si on raisonne en termes de secteur, la crise actuelle, elle désigne aussi, par le conflit entre les générations qui sont différemment exposées au virus, elle désigne une transformation profonde des sociétés où on verra la demande de soins, de santé, de soins au grand âge augmenter. Et donc, il faut mettre en place les outils à la fois pour assurer la viabilité sociale et économique de ces secteurs, et puis pour attirer suffisamment de travailleurs qui soient correctement rémunérés, qui aient des conditions de travail qui soient au-delà de la pénibilité, même si ce sont des métiers intrinsèquement difficiles, ça c'est sûr et certain. Et le paradoxe, c'est que les métiers de service ont en outre des problèmes de productivité. Ce ne sont pas des candidats à une productivité très croissante, parce que c'est le paradoxe de la dualité des secteurs. Il y a des secteurs à productivité croissante qui peuvent faire bénéficier les salariés de progrès de la productivité quand le partage des bénéfices est correctement réalisé, et puis d'autres qui ont des productivités plus stagnantes. Ça, c'est un problème sérieux. Il y a une autre grande division du monde dans le monde du travail, c'est la différence entre le salariat et l'indépendance. Les indépendants ont été, et on en a parlé, il y a beaucoup de catégories d'indépendants qui ont été heurtés de plein fouet par l'absence tout simplement de marché, de commandes, de clients. Et là, il n'y a personne en quelque sorte à qui aller exprimer des revendications. Il n'y a pas de patron, on est soi-même son propre patron. Donc ça, c'était aussi une des grandes leçons de cette crise, c'est qu'il y a il y a un monde profondément différent dans les deux statuts d'emploi possibles.
On voit qu'effectivement, il y a des différences importantes entre les secteurs, entre les statuts. Pour rester encore un petit peu sur l'hôpital, Valérie Charolles, comment comprendre aujourd'hui que des sommes considérables soient débloquées pour éviter des faillites d'entreprises, mais pas pour ouvrir de nouveaux lits, recruter du personnel, comme le demandent les soignants qui ont encore manifesté jeudi 15 octobre?
Alors ça, c'est un problème. Le problème de l'hôpital est un problème qui précède en fait hein, la crise sanitaire, et c'est bien une des difficultés qu'on a particulièrement en France, c'est que ça fait 10, 15, 20 ans que on n'a pas voulu donner à l'hôpital tous les moyens dont il avait besoin, parce qu'on est dans une certaine logique économique qui consiste à considérer que les missions assurées par la sphère publique seraient moins aurait moins besoin d'être développé que les autres.
Oui, mais ce
Or, dans
logiciel
des
pourrait
sociétés,
évoluer avec la crise,
voilà.
Valérie Charolles. Comment expliquer que ce ne soit pas le cas?
Dans des sociétés où vieillissantes, et par ailleurs où le progrès de nos connaissances est tel qu'on a de plus en plus de moyens de soigner, c'était un mauvais pari de se dire qu'on allait ne pas mettre assez d'argent sur l'hôpital. Et donc, il faut changer ce logiciel-là. Je pense que les moments de crise, et ça s'est historiquement souvent révélé juste, sont des moments où on peut justement obtenir qu'il y ait des changements profonds qui soient opérés. Ça suppose pour l'hôpital, pas seulement, effectivement, ce qui a été dit, pas seulement une revalorisation des salaires, mais aussi des meilleures conditions de travail, des recrutements. Et je pense qu'il faut remettre aussi sur la table la question qui était si présente il y a 20 ans et qui maintenant est devenue une question qu'on a presque honte d'aborder, qui est celle de la réduction du temps de travail. Moi, je me rappelle en 2000, quand on est passé aux 35 heures, c'était 4 jours et demi de travail, et l'horizon, c'était de passer à 4 jours. Et c'est peut-être un horizon sur lequel il faut qu'on puisse revenir après cette crise pour voir comment partager mieux l'économie et puis aussi comment partager mieux notre vie.
Alors qu'aujourd'hui, des
Parce
voix
que...
s'élèvent pour dire qu'au contraire, il faut travailler plus pour rattraper cette perte de valeur liée à la crise. Benjamin Coriat, peut-être un mot sur l'hôpital et sur, par exemple, quand on voit l'Espagne qui construit actuellement un hôpital des pandémies à Madrid, on peut se dire que des moyens supplémentaires pourraient exister, d'autant plus que les pandémies risquent de se multiplier.
Écoutez, si vous voulez, il y a deux problèmes pour l'hôpital et qui sont des problèmes majeur, mais vraiment majeur. Le premier, c'est que l'introduction des méthodes de gestion du privé, si je peux dire, dans des établissements publics, et notamment dans l'hôpital, ce qu'on appelle le New Public Management, a été une catastrophe a été une catastrophe, parce qu'on a transformé l'hôpital, qui est un lieu de soins, qui est un lieu d'attention, j'ai presque envie de dire qui est un lieu de réserve, en un lieu de flux. Ça veut dire que il fallait passer vite, hein, toutes les histoires de l'hôpital de jour, etc. Il fallait que le taux d'occupation des lits soit maximum. Aujourd'hui, en France, il est de 90 à 95%. Si l'Allemagne s'en est mieux tirée que nous par rapport à l'épidémie, c'est parce qu'ils ont un taux d'occupation des lits de 65%. Donc, il faut du gras. Donc, il faut casser cette logique de flux et réintroduire deux choses. Premièrement, la fonction de prévention, qu'on a totalement annulé en Europe, et pardon, en France, et la fonction de stock. On ne peut pas combattre, on l'a vu pour les épidémies. Lorsqu'on a dit il faut des masques, la Cour des comptes a dit 1 milliard de masques, mais vous plaisantez, il faut savoir gérer mieux, il faut gérer des flux. Donc il faut pouvoir les acheter, et le jour où il a fallu les acheter, comme tout le monde voulait les acheter, il n'y en avait pas. Donc il faut casser cette logique de flux. Ça, c'est la première chose, et réintroduire une logique de soins, c'est-à-dire une logique de stock. Et le deuxième point qui est aussi essentiel, c'est qu'avec le New Public Management, on a introduit le pouvoir d'une couche intermédiaire d'administrateurs, ceux qui pratiquent la T2A, hein, ceux qui veillent
au respect à l'activité.
De la tarification à l'activité, et on a dessaisit les soignants de leur pouvoir. Et donc, du coup, il n'y a plus aucun sens à ce qu'ils font, et il n'y a plus aucune efficacité à ce qu'ils font. Pendant le Covid, ce qui s'est passé, c'est que les soignants ont repris le pouvoir. Ils ont mis les administratifs dehors et ils ont dit, maintenant, vous nous laissez travailler. Et les administratifs étaient tellement terrorisés qu'ils les ont laissés faire. Et c'est comme ça qu'on a eu moins de morts que ceux qu'on aurait dû. Donc, il y a vraiment deux problèmes majeurs et on n'a rien traité.
Des difficultés importantes à l'hôpital, mais qui ne devrait pas nous faire oublier d'autres secteurs, comme vous le disiez, Pierre-Michel Minguère, et notamment évidemment le secteur de l'éducation. Il faut parler de la revalorisation des salaires des enseignants, qui est un sujet récurrent. À partir d'avril 2021, les enseignants devraient toucher 100 euros net mensuels en plus au moment de leur titularisation, et les professeurs pourront également percevoir une prime d'équipement informatique de 150 euros par an. Là aussi, on peut juger que c'est insuffisant, mais c'est tout de même le signe que les choses bougent, Pierre-Michel Minguère.
Oui, il y a la question des salaires, c'est clair. Les comparaisons internationales sont intéressantes et montrent que la France n'est pas très bien placée en termes de salaire des enseignants. Probablement, la comparaison internationale devrait aussi s'intéresser à l'organisation du système. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est un ensemble de rouages très complexes et que nous avons un système extraordinairement centralisé avec une logique de décision qui est uniforme. En quelque sorte, le modèle doit être totalement uniforme. Je pense qu'une des leçons de la crise actuelle, ça a été certainement de susciter l'intérêt pour des expériences plus décentralisées et des initiatives locales. Benjamin Corian vient de parler des hôpitaux où on reprenait le pouvoir localement. Je pense qu'il y a certainement là un chantier énorme de réflexion. C'est beaucoup plus difficile de parler d'organisation et de management sans parler de NPM, de New Public Management, qui était le diable, effectivement, quand il est utilisé bêtement, enfin quand il a été créé, il a servi à ça, réduction des coûts, etc. Mais la question du management en général et de l'organisation, plus simplement, elle est très, très, très importante. On ne peut pas dire que tout va très bien, il suffit de rajouter des moyens pour que tout soit terminé. Les moyens sont essentiels, bien sûr, mais l'organisation des activités et le bon usage des moyens avec des budgets qui sont quand même très élevés. L'Allemagne a des dépenses publiques moins importantes que les nôtres. Elle a des performances qui peuvent être supérieures sur certains plans, pas tous. Mais donc, ces comparaisons, c'est d'ailleurs une des leçons incroyables de la crise, c'est qu'on a mis sur la table en direct des comparaisons internationales dans tous les sens. C'est très difficile de se faire une religion d'ailleurs sur la question de savoir quel pays y arrive mieux à traiter toutes les dimensions de la crise, parce que les expériences varient énormément d'un pays à l'autre. Ça sera un chantier d'études plus à froid, je crois, qu'il sera essentiel pour comprendre exactement quel est le sens de ce qu'on appelle les modèles. Notre modèle, un autre modèle, le modèle allemand, éducatif, mais aussi sanitaire, de gestion des populations âgées, de décentralisation politique, etc. etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects. La Suède était entourée de pays qui faisaient le contraire de la Suède. Enfin, c'est extraordinaire comme problème complexe, mais tout à fait essentiel à creuser.
On l'a dit, les secteurs de la restauration et de la culture risquent de particulièrement souffrir avec cette mesure du couvre-feu dans 9 métropoles de l'Hexagone. Valérie Charolles, en revanche, c'est un couvre-feu qui devrait largement profiter à un autre secteur, celui du numérique. Les géants comme Amazon ou Netflix devraient plutôt tirer leur épingle du jeu.
Oui, donc parce que ce qu'il faut voir dans cette mesure de confinement partiel ou de confinement total qu'on a eu au mois de mars, c'est que tout le monde n'est pas perdant du point de vue économique. On va certes moins au restaurant, mais du coup, on achète plus en alimentation. Donc l'économie, c'est un ensemble de flux. Et dans ces flux-là, on met toujours en avant du point de vue médiatique, et on peut le comprendre d'une certaine manière, ceux qui sont les grands perdants, là, les restaurateurs, ou une partie du secteur de la culture, c'est-à-dire la culture en présentiel. Mais on oublie aussi qu'il y a des gagnants. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que les prévisions de l'économie et de la croissance de l'INSEE, finalement, c'est plutôt moins 5% de baisse du PIB pour l'année 2000, alors que comme on a arrêté en gros l'économie pendant 2 mois, on aurait pu s'attendre à beaucoup plus. Mais d'une part, il y a une autre modèle social qui est venu faire en sorte que les gens ont quand même eu des revenus, les salariés ou les indépendants ont quand même eu des revenus. Et je pense que là, on pourra voir, je rejoins Pierre-Michel Menger sur l'intérêt des comparaisons internationales, on va voir à l'arrivée quand même que dans des pays ayant un amortisseur social sous forme d'État-providence plus développé, eh ben on va s'en sortir sans doute beaucoup mieux pour l'année 2020 que dans d'autres types de pays. Et puis, il va y avoir des secteurs donc qui vont arriver à se développer. Et la question du numérique, il faut pas la voir de façon totalement, enfin, dans un dilemme entre le bien et le mal. Il y a le problème des géants qui sont en position dominante, mais le numérique, c'est aussi permettre à des gens qui sont loin des salles de cinéma d'accéder via Netflix ou d'autres plateformes à des contenus qui peuvent être des contenus de qualité.
Mais des contenus qui ne sont pas nécessairement des productions françaises, et c'est là peut-être qu'il y a un souci, puisqu'effectivement les géants du numérique, c'est de la culture aussi, mais c'est pas forcément la culture que l'on veut soutenir si on veut avoir une exception culturelle française qui demeure, Benjamin Coriat.
Écoutez, il y a ce double problème, il y a ce que vous dites, et effectivement c'est un espèce de raz-de-marée, hein, sur l'exception française. Bon, alors là, il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi pour parler de la manière dont on peut faire face à ce raz-de-marée et préserver cette politique d'exception française qui a eu, je pense, toute une série de résultats positifs. Mais moi, je veux revenir sur l'aspect économique quand même pour dire un mot. Non seulement, effectivement, ils ont été les très grands bénéficiaires, et dans des proportions absolument insensées, hein. Bon, Amazon, Netflix, etc. Bon, mais on est ramené à ceci que ces super géants, qui sont les mastodontes d'aujourd'hui, hein, qui sont les General Motors, qui sont les Caterpillar, etc. Des Trente Glorieuses. Ne paye pas d'impôts. Ne paye pas d'impôts. On n'aurait jamais pu faire le welfare state, hein, l'État-providence, si General Motors, Caterpillar, Ford, etc. n'avaient pas payé d'impôts.
Donc ce que vous dites, c'est que c'est pas leur bénéfice important qui pose problème en soi, mais le fait qu'ils ne participent pas effectivement à la vie sociale.
Il y a les deux. Il y a plusieurs problèmes. Il y a toutes sortes de problèmes. Il y a l'écrasement culturel. Bon, ça c'est une dimension. Il y a la génération incroyable de petits boulots qu'ils fabriquent par rapport à d'autres types d'entreprises. Bon, donc ça c'est un deuxième problème. Pensez à Uber, pensez à... Et puis le troisième problème, c'est qu'ils sont dans les paradis fiscaux et qu'ils ne payent pas d'impôts. Et ça, c'est, je pense que pour la jeune génération, c'est un désastre absolu. C'est-à-dire que si les plus grandes entreprises du moment sont celles qui échappent à l'impôt, avec quoi on va faire le système des prestations sociales? Donc, je veux dire, il y a un triple problème très sérieux.
C'est tout ce, enfin, cet enthousiasme général pour le méga-organisme que je n'arrive pas à comprendre. J'essaie, mais j'y arrive pas. Je veux dire, ça veut dire quoi? Que je ne suis censé penser qu'au bien-être de la colonie, hein? Et qui pense à mon bien-être à moi? Qui pense à moi? Alors, je suis bien obligé de me persuader qu'il y a un monde quelque part qui est mieux qu'ici. Sinon, j'ai plus qu'à me coucher en position larvaire et à me mettre à pleurer. Le système tout entier me donne l'impression d'être insignifiant.
C'est très bien. Vous venez de faire un grand pas en avant.
Ah oui?
Oui, Zed. Vous êtes insignifiant.
Ah bon?
Un extrait de Fourmise, le film d'animation des studios DreamWorks sorti en 1998 et qui nous emmène donc dans une colonie de fourmis dans laquelle l'ouvrière Z se sent insignifiante. Un clin d'œil pour évoquer la perte de sens au travail. Une perte de sens qui est peut-être d'autant plus difficile à supporter qu'avec le couvre-feu, la part consacrée aux loisirs se réduit. On l'a dit, Valérie Charol, mais alors est-ce que sans l'exutoire que représente le fait de sortir le soir, de voir des amis, de boire des verres, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une hausse de la souffrance au travail et éventuellement une hausse des burn-out?
Alors, on va assister, je pense, oui, on assiste surtout depuis plus de 6 mois à une grande montée de la souffrance, que ce soit au travail ou que ce soit dans le reste de la vie. Enfin, moi, j'ai pas de chiffres qui en témoignent, mais on voit bien dans l'environnement immédiat qui est celui que nous avons chacun d'entre nous, qu'il y a de la souffrance, il y a de la tension. Et que la situation actuelle, elle est profondément anxiogène, pas uniquement du point de vue économique, hein, du point de vue aussi sanitaire. Et je reviens juste une seconde sur votre extrait qui était vraiment excellent, et sur la question de des monopoles et du fait qu'on a des GAFAM, donc des géants de l'internet. C'est justement ça qu'il faudrait arriver à remettre en cause, pour avoir justement un mécanisme économique qui fonctionne pas sur la base de positions de monopole, mais sur des entreprises de plus petite taille, qui sont localisées plus de façon plus proche de leurs clients, et puis qui aussi payent leurs impôts. Ça, je suis tout à fait d'accord, qui payent leurs impôts. C'est ce que j'essaye de développer dans un livre qui va ressortir, qui s'appelle « Le libéralisme contre le capitalisme ». L'idée qu'on peut être... que le système économique qu'on connaît aujourd'hui, qui est le capitalisme, qui profite du travail pour faire des grands profits à travers de multinationales, n'est pas la même chose qu'une économie libérale dans laquelle le travail serait reconnu comme une valeur économique positive.
Alors la perte de sens, la souffrance au travail sont évidemment des choses qui ne sont pas nouvelles, Pierre-Michel Minguère, mais on peut se demander effectivement si on assiste déjà et on va assister encore davantage à une hausse de cette souffrance.
Je voudrais peut-être mettre le débat dans un contexte de comparaison. L'Europe, qui est d'ailleurs très hétérogène sur le rapport de la quantité de travail, les horaires, le sentiment personnel de pénibilité ou non du travail, la volonté de s'émanciper par le travail ou pas, c'est un ensemble hétérogène. Mais par rapport aux États-Unis ou à la Chine, qui sont maintenant les deux grands mastodontes, la Chine a émergé énormément. La Chine, on bosse beaucoup, énormément. Alors c'est peut-être encore une société qui a à conquérir, mais elle travaille énormément. Le rapport au travail est extraordinairement lié à des différences de système, de culture, de perception de la relation entre soi, la totalité et le sens du travail. Et évidemment, ce que je crois, c'est que les pays où l'innovation va s'implanter, où elle se développe beaucoup, et les États-Unis et la Chine sont typiquement des exemples de ce cas-là. On a cité tout à l'heure les grandes entreprises, les GAFAM, et DreamWorks fait partie de Walt Disney. Donc tout ça, c'est une économie de la concentration qui serait bien inspirée de se rappeler que maintenant, il faut quand même être solidaire de l'ensemble de ceux à qui on rend des services, mais monétarisés, et dont on profite pour grandir encore. Je pense que là, il y a un système de solidarité internationale qui doit être mis en place. La fiscalité en est une dimension, mais il y en a d'autres peut-être. Il y a une sorte d'économie morale de limite de la concentration qui doit se déclencher à la faveur, si on peut dire, de cette crise, de cette pandémie. Ce qui est vrai, c'est que les technologies vont bousculer considérablement le travail. Et plutôt que de les subir, il faudrait quand même se retrousser les manches pour avoir en Europe aussi et en France aussi des technologies que nous contrôlons pour savoir comment augmenter la qualité du travail sans procéder à une destruction massive d'emplois à la faveur de ce qu'on appelle la polarisation, c'est-à-dire les woke prennent le pouvoir sur tout un ensemble de tâches qui sont robotisables, et puis les emplois non robotisables, mais peut-être mal payés, restent d'un côté, et puis les emplois où on tire le meilleur parti de la technologie, en haut de l'échelle des qualifications, sont protégés eux aussi. Je pense que ça, c'est un vrai défi, et je regrette que, l'Europe ait perdu la bataille jusqu'à maintenant, mais une des leçons peut-être de la crise, j'espère que c'est plus que publicitaire, c'est que l'Europe a pris conscience que maintenant elle doit réagir un peu comme un bloc, et parce qu'il n'y a plus le choix. Ça y est, c'est fait. La Chine va ressortir avec de la croissance. Les États-Unis, j'espère, vont sortir du marasme de ces élections présidentielles grand guignolesques et vont retrouver un élan social-démocrate, si on veut, et l'Europe doit jouer sa partie là-dedans. Et maintenant, le travail et les innovations doivent être complémentaires pour sortir un peu de l'ornière et d'un raisonnement linéaire dépressif.
Alors, selon l'économiste Robert Boyer, un tiers de la capacité de production s'est brutalement révélé n'avoir pas d'utilité sociale indispensable. Benjamin Coriat, c'est toute notre organisation économique qui doit être repensée aujourd'hui, selon vous ?
Ah oui, moi je suis très frappé par ça. Si vous voulez, parmi les économistes, en tout cas une partie d'entre eux, pas négligeable, on était déjà persuadé, si je peux dire, que tous les biens produits n'avaient pas la même utilité et surtout pas la même utilité sociale. Et qu'il y avait quand même des déficits très importants sur des biens essentiels. Hein. On a parlé tout à l'heure de la santé, on peut parler aussi de l'éducation, je crois. Personne ne niera qu'il s'agit là vraiment de biens fondamentaux. Et pourtant, ils sont délivrés dans des conditions, dans certains cas, catastrophiques.
Est-ce qu'on construit la résilience de nos économies, Benjamin Coriat ?
Écoutez, moi, j'aurais tendance à dire que, je l'ai dit, je me suis exprimé dans des articles que j'ai faits, dans un ouvrage que je vais publier très bientôt. Je pense qu'il faut en revenir aux besoins essentiels. Il faut en revenir aux choses essentielles. Je fais la préconisation, entre guillemets, de reconstituer les politiques publiques autour de grands pôles d'activité. Hein, qui serait se nourrir, se soigner, se chauffer, se cultiver, s'éduquer, etc. Et repenser les politiques publiques à la fois à un niveau territorial et à un niveau intersectoriel, je dis bien intersectoriel, par rapport à ces besoins fondamentaux. Alors, si après et en plus on peut faire d'autres choses, tant mieux. Mais déjà, garantissons que la santé est assurée, que l'éducation est assurée, que se chauffer est assuré. C'est plus le cas, hein. Il y a 2 millions d'appartements qui sont des passoires thermiques absolues, ce qui est un contresens à tous les points de vue, d'abord parce que les gens ont froid, ensuite parce que ça fait une consommation d'énergie astronomique. Enfin, je veux dire, quand on est un tout petit peu rationnel, on n'arrive pas à comprendre qu'on en soit là. Bon, donc c'est l'occasion ou jamais, peut-être pas de tout refaire, mais au moins de reconstruire des bases un peu saines.
Et puis il y a peut-être une nécessité de sortir de l'urgence, c'est ce que dit le philosophe Frédéric Worms, face effectivement à cette pandémie qui dure et face au risque de nouvelles pandémies dans l'avenir. Quel est ce modèle économique qu'il faudrait repenser ? Est-ce que, Pierre-Michel Minguer, il faudrait par exemple moins consommer et développer en parallèle une société du care, du soin ?
Elle arrive de toute façon. La structure démographique de la population y conduit. Ensuite, les questions d'équilibre entre tous les leviers dont nous disposons, on peut avoir des opinions extraordinairement différentes les uns les autres ici autour de la table, c'est clair. Ce qui est vrai, c'est que les secteurs régaliens qu'a cité Benjamin Coriat, l'éducation, la santé, font partie de biens publics, quasiment publics, mais pas entièrement, mais beaucoup tout de même. Et la France n'est pas exactement en retard, même si elle a des moyens, qui peuvent être augmentés et surtout et aussi mieux organisés. Ensuite, Qu'est-ce qu'on veut mettre derrière ces mots, le souci d'autrui? C'est vrai que la crise actuelle est une crise aussi de la destruction de la socialité, d'une certaine manière. On assiste à... autrui est un danger, ce qui est quand même dramatique. Une société fonctionne exactement sur le principe inverse. Cela dit, il faut dire aussi que c'est une occasion de comprendre ce qu'est la responsabilité de chaque individu à l'égard de soi-même et à l'égard de ce qu'il fait ou ne fait pas aux autres. Et ça, c'est peut-être une leçon qui peut s'appliquer par cercle concentrique à beaucoup, beaucoup d'aspects de l'existence. On en a évoqué un certain nombre et je trouve que c'est un point absolument essentiel. Aujourd'hui, les risques, les termes de responsabilité au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire philosophique, je pense à Kant, le grand philosophe allemand du XVIIIe siècle, il y a aujourd'hui une économie morale de la gestion collective des risques et des responsabilités. Quand j'entendais certains médias interviewer des gens pour dire « Alors comment est-ce que vous allez faire avant le déclenchement du couvre-feu? Est-ce que vous allez faire la fête comme des fous jusqu'à ce que les neuf coups de 21h arrivent ou les 21 coups de 21h arrivent ?» Je trouvais que c'était un peu joué quand même avec une sorte de carnaval en disant « Voilà, on va s'affranchir des règles jusqu'au moment où on sera puni par les règles. » Ça n'est pas sérieux.
Il y a effectivement un paradoxe, le fait que l'on n'a peut-être jamais autant fait société en se souciant des autres sur le plan sanitaire et en même temps, on n'a peut-être jamais été aussi isolés les uns des autres à cause des mesures sanitaires et des gestes barrières. Un grand merci à tous les trois pour cette passionnante discussion. Benjamin Coriat, Pierre-Michel Minguer, Valérie Charolle. Je précise, Valérie Charolle, qu'une nouvelle version de votre ouvrage, Le libéralisme contre le capitalisme, paraîtra en janvier. J'ai bien noté, Benjamin Coriat, votre prochain ouvrage. On mettra également les références sur notre page, sur le site de France Culture. Tout de suite, c'est l'heure de la bibliothèque de l'écho.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Proposer des pistes pour sortir de la crise par le haut, c'est l'ambition du dernier ouvrage de Patrick Artus, coécrit avec Olivier Pastré. L'économie post-Covid, c'est son titre, est sorti au début du mois chez Fayard. Au micro de Marguerite Caton, Patrick Artus nous livre son diagnostic et ses remèdes.
D'abord, il y a un aspect de court terme, parce que pendant clairement plusieurs mois, les économies vont fonctionner de façon assez bizarre, nous allons vivre de façon assez bizarre. Mais là, on se pose la question de l'après. Un des problèmes essentiels de l'après, c'est que chaque récession détruit de la croissance de long terme. Ce qui n'est pas complètement évident, parce qu'on pourrait avoir une thèse optimiste de type schumpeterienne, en disant dans une récession, les mauvaises entreprises disparaissent et les emplois vont dans les meilleurs. Et donc effectivement, les récessions fabriqueraient de la croissance. Cela étant, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est que les récessions détruisent de la croissance pour des raisons qui sont assez simples. On investit moins, donc on a moins de capital. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur emploi et donc elles perdent une partie de leurs compétences, ce qu'on appelle le capital humain. Et puis cette fois-ci, quelque chose qui est supplémentaire et qui est un facteur aggravant, qui est que on va voir une très grande déformation de la structure sectorielle de l'économie. Il y a un certain nombre de secteurs dont on sait ou dont on pense qu'ils vont aller durablement mal.
L'automobile, le transport aérien,
l'aéronautique, la distribution traditionnelle parce qu'on achète en ligne, tout ce qui est bureau puisqu'on va travailler plus à la maison. Et puis, il y a des secteurs qui vont bien, tout ce qui est services informatiques, tout ce qui est pharmacie, santé, sécurité. Simplement, transporter des centaines de milliers de salariés des secteurs qui vont mal vers les secteurs qui vont bien, c'est extrêmement difficile. Pendant assez longtemps, il y a des personnes dont les compétences ne sont plus adaptées aux emplois qui se créent. Et ça, ça tue de la croissance aussi. Donc, on a un problème global qui est que, très probablement, on va avoir durablement moins de croissance que ce qu'on aurait eu sans cette crise.
L'inquiétude aujourd'hui, c'est la situation des entreprises et spécialement des PME, car toutes sont en train de s'endetter massivement pour passer la crise. Qu'est-ce qu'il leur faut d'urgence ?
Cette crise pose des questions qu'on aurait pu se poser avant. C'est-à-dire que les PME françaises, particulièrement, manquent de fonds propres. Elles sont trop financées par le crédit et pas assez par les fonds propres. Et une des raisons, c'est que les Français n'épargnent pas en fonds propres. D'une part parce que les Français ont une très forte demande de sécurité dans leur épargne, donc ils préfèrent acheter des obligations des États ou même en ce moment garder de leur argent sous forme de dépôt. Et puis, parce que les règles des institutions financières, par exemple la réglementation des assureurs, n'est pas du tout favorable au fait que des assureurs financent les PME en fonds propres. C'est même carrément découragé par la réglementation.
Le moins d'activités risquées, si possible.
Voilà, donc toujours avec la même idée qu'il faut préserver l'épargnant. Simplement, si on préserve considérablement l'épargnant, plus personne ne prête d'investir en fonds propres dans les PME, et on a des PME qui sont fragilisées. Et simplement, c'est compliqué comme dossier, parce que le régulateur, lui, dit « moi, mon travail, c'est de protéger l'épargnant ». Évidemment, si l'épargnant n'achète que de la dette de l'État français, il va être mieux protégé que s'il achète des fonds propres de PME. Donc il faut convaincre les régulateurs qu'il faut aussi qu'ils réfléchissent au financement de l'économie.
On a besoin d'investisseurs solides, prêts à prendre des risques, vous nous l'avez dit. L'État ne peut pas s'y substituer entièrement. Où est-ce qu'on va dénicher ces oiseaux rares, alors, Patrick Artus?
Moi, je crois beaucoup appelons ça le cofinancement ou la coordination entre l'État et les entreprises. Alors, on n'a pas beaucoup d'exemples encore. Aux États-Unis, il y a un programme qui s'appelle la DARPA, où des entreprises, y compris toutes petites, qui ont des projets technologiques nouveaux, peuvent se faire financer par l'État pour développer leurs projets. Et donc, moi, je pense que l'avenir, c'est ça. On a un exemple, par exemple, c'est ce qui va se faire dans la batterie électrique, ou ce qui se fait, hein, puisque l'État et des grandes entreprises coopèrent. Je crois qu'il va falloir mettre en place cette coopération, parce que le débat qu'on a sur les plans de relance, par exemple, c'est, certes, l'État vote beaucoup d'argent, mais est-ce qu'il saura le dépenser? L'État, il ne sait pas fabriquer une usine de batterie électrique. Hein. Par contre, PSA, c'est sans doute fabriquer une usine de batterie électrique, et donc, il faut qu'ils travaillent ensemble. Donc, je crois que cette crise va pousser vers quelque chose qui est assez efficace et que pratiquent d'ailleurs la Chine, les États-Unis, le Japon, les pays nordiques depuis longtemps, qui est du copilotage de projets innovants, technologiques, entre l'État et les entreprises. Et là, on sait que l'argent public sera bien utilisé, et donc je crois que c'est ça la piste. Dans un monde de taux d'intérêt zéro, on a une chance considérable qu'il faut réaliser, c'est que un projet à 30 ans, la rénovation des bâtiments, la rénovation thermique des bâtiments ou énergétique des bâtiments, c'est
un des grands chantiers du plan de relance.
C'est un chantier gigantesque, mais c'est une rentabilité très exactement de 0,6% si vous le faites avec de l'argent privé. Donc même aujourd'hui, vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun investisseur privé qui va se lancer là-dedans. Mais l'État, lui, peut s'endetter à zéro ou même à taux négatif. Donc l'État va pouvoir abonder finalement l'argent privé pour qu'on fasse quand même ces investissements de rentabilité faible. Et la rentabilité faible, c'est pas qu'elle est en soi faible, c'est qu'elle s'obtient dans le très très long terme.
Face aux pertes des entreprises que l'on estime à 40% pour l'année 2020 dans les pays de l'OCDE, il faut non seulement mobiliser le capital financier, on l'a dit, mais aussi mobiliser le capital humain. Concrètement, il va falloir travailler plus et plus longtemps, Patrick Artus, vous parlez d'un coup de rein productif.
La question, c'est que si on ne fait rien, nous n'allons jamais retrouver le niveau de production, donc de revenus, que nous aurions eu sans la crise. Alors on va retrouver probablement en 2022 ou en 2023 le niveau de revenus d'avant la crise, mais ce qui compte, c'est le niveau de revenus qu'on aurait eu sans la crise. Or, il va nous manquer en permanence probablement 4 ou 5% de revenus. Et ça, c'est un énorme problème, parce que si on ne fait rien, bah, on aura définitivement 5% de revenus en moins. Donc soit on baisse les salaires de 5% et on détruit pas d'emplois, soit on baisse pas les salaires et on va détruire 5% des emplois. Enfin, donc il y a un vrai sujet. Et donc évidemment, devant cette perte de production, la bonne solution, c'est de faire des gains de productivité pour redresser notre revenu. Alors ça peut s'envisager de toutes sortes de façons. Il y a une complication, évidemment, c'est qu'il y a... Bon, il y a les secteurs qui vont mal. Les secteurs qui vont mal, eux, n'ont pas besoin de produire plus. Et par contre, vous avez dès aujourd'hui des secteurs qui sont sous tension et qui n'arrivent pas à recruter. Donc, ce qu'il faut, c'est pas une approche globale. On peut pas décider au niveau national qu'on va travailler plus ou moins. Je pense que cette crise est l'occasion de fabriquer vraiment du dialogue social. C'est l'occasion de se rendre compte que toutes sortes de décisions ne pourront pas être prises au niveau global, ni même au niveau des branches, ni au niveau des régions, qu'il va falloir que les choses se discutent en entreprise.
Oui, vous préconisez les négociations d'accords de performance collective.
Alors, notamment. C'est pas forcément comme ça, parce que ça... Vous savez qu'encore aujourd'hui, ce qui est quand même absolument incroyable, aujourd'hui, en pleine crise, le problème numéro un mis en avant par les entreprises françaises, c'est qu'elles n'arrivent pas à embaucher. Et donc, ça pose un problème, bien sûr, sur notre système de formation et d'éducation.
Vous en parlez énormément. Oui. Qu'est-ce qu'on peut raisonnablement attendre d'une nouvelle réforme de la formation telle que vous l'envisagez? Enfin, ce sera quoi, là? la quatrième en 14 ans ?
Il faut déjà que celle qui vient d'être mise en place soit effectivement mise en place, hein, parce que c'est pas encore le cas, donc attendons un petit peu. Mais ça pose pas que la question de la formation. C'est à nouveau, dans une entreprise où on n'arrive pas à embaucher et où il y a un énorme carnet de commandes, on peut discuter avec les syndicats de travailler plus, d'allonger la durée du travail, de travailler autrement. Il va y avoir autant de situations que d'entreprises, donc on ne peut absolument pas avoir de règles globales.
Il est sûr qu'il y a des catégories de population qui sont plus touchées et qui sont les perdantes, notamment les jeunes.
Oui, alors, d'ailleurs, il y a un travail très intéressant, mais qui se continue du Conseil d'analyse économique, pour essayer d'identifier précisément les populations qui sont en difficulté quand il y a une crise. On a des idées, on sait qu'il s'agit de jeunes, d'intermittents, d'intérimaires, de personnes qui avaient des CDD à répétition, mais on n'avait pas une... Et on va avoir une mesure très objective de qui est en difficulté de façon assez précise. On n'a pas besoin aujourd'hui de donner de l'argent à tous les ménages. Il y a beaucoup de ménages dont le problème, c'est de ne pas avoir consommé. Donc 80% des Français, depuis le mois de mars, accumulent de l'épargne. Eux, ils ont besoin de confiance, ils ont besoin de visibilité, mais ils n'ont pas besoin d'argent. Et par contre, il y a 20% des Français, à peu près, hein, qui, eux, sont en difficulté, ont dépensé la petite épargne qu'ils avaient, se sont endettés.
Et derrière, il faudra mettre de l'aide sociale. Et alors, si on revient sur les jeunes, c'est quoi? C'est l'extension du RSA pour les 18-25 ans?
Alors, il y a plein d'idées. Il y a quelque chose qui s'appelle la garantie jeune, hein, qui est un programme assez intéressant parce qu'il est nécessairement associé à un projet d'éducation ou de formation. Il y a le RSA, plus aide personnalisée au logement. Le RSA commence à 25 ans. Bah, ça fait très longtemps, et on le dit dans le livre d'ailleurs, qu'on pense qu'un jeune inséré, alors peut-être pas tous les jeunes, mais tous les jeunes insérés dans des filières de formation, il faut les aider. Et même en dehors de cette crise, je veux dire, un étudiant qui bosse la nuit dans un bar, il n'est pas frais en amphi le jour, quoi.
Donc, ouais, les bars sont fermés, cette question est réglée.
Oui, mais du coup, il n'a plus d'argent. Donc avant, il dormait en amphi et maintenant, il n'a plus d'argent. Et donc, s'il avait 300 ou 400 euros tous les mois versés par l'État pour financer ses études, il serait beaucoup plus disponible pour travailler, il pourrait faire des études plus longues. Donc je crois qu'on a tous à gagner collectivement à donner une espèce de revenu universel aux jeunes qui sont insérés dans un parcours de formation.
Vous avancez des solutions pragmatiques, mais vous appelez surtout à des décisions de rupture. C'est de l'audace dont nous avons besoin, Patrick Artus, et non pas de la prudence.
Oui, parce qu'on s'est dit avec mon co-auteur, avec Olivier Pastré, que ce qui allait probablement se faire, c'était de l'ajustement à la marge des systèmes existants. Mais si nous sommes définitivement avec 5% de PIB en moins, ce que je crois, il n'y aura pas de retour du tout à la normale. Et les systèmes existants seront absolument pas calibrés. Prenez le système de formation professionnelle. Mes estimations, c'est qu'1,5 million de Français vont devoir changer de métier. Notre système de formation professionnelle est aujourd'hui absolument incapable de gérer ça. Il est à des années-lumière d'être capable de gérer ça. Donc il faut le changer complètement. On va avoir des centaines de milliers de personnes, attendons, mais apparemment de l'ordre de 20% des Français en grande difficulté. Donc c'est pas en bricolant notre système de soutien à la pauvreté, il faut être imaginatif. Cette crise est un révélateur finalement de ce qui va pas dans nos systèmes sociaux.
Dernier problème, c'est les conflits qui ne vont cesser de s'amplifier. Vous êtes assez lucide ou pessimiste, je ne sais pas. Comment on fait pour réussir à tout changer en conservant une paix sociale?
De toute façon, le truc général, c'est que si on perd 5% de revenus, la bataille pour le revenu est plus sauvage qu'avant. Hein. Et cette bataille pour le revenu, elle va se faire entre les pays. Donc quand on nous parle de relocalisation, il faut quand même bien comprendre que la norme, ça va être la délocalisation. Donc sans incitation de l'État, on va avoir beaucoup de délocalisation, en particulier vers l'Europe centrale. Hein, ça ne sera pas la Chine, ça sera l'Europe centrale, le Maroc. Bon. Après, il va y avoir un problème, dans cette perte de revenus, salariés-entreprises. Les entreprises vont vouloir restaurer leur profitabilité le plus vite possible. Et ça veut dire qu'elles vont repousser la perte de revenus sur les salariés. Et puis ensuite, parmi les salariés, il y aura les salariés plus protégés qui vont refuser des baisses de salaire, bien sûr, et les salariés moins protégés qui vont perdre leur emploi. De toute façon, quand on perd 5% du revenu, on ne peut que fabriquer des conflits. Et le pire, peut-être, c'est que comme les banques centrales interviennent dans tout ça en créant une montagne de monnaie, cette montagne de monnaie, elle va faire monter les cours boursiers, les prix de l'immobilier, on va avoir des bulles partout. Et donc vous aurez à la fois des salariés en difficulté et un énorme enrichissement patrimonial, ce qui est une source de conflit encore en plus.
Je vous remercie Patrick Artus. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez coécrit avec Olivier Pastré, L'économie post-Covid, et c'est chez Fayard.
C'est la fin de votre magazine d'économie. Un grand merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Alia Tovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Félix Levacher. À la technique aujourd'hui, Élise Leu. Demain, nouvelle série consacrée à l'économie du crime. On se demandera si les mafias sont des multinationales comme les autres. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.